Voilà, qu'est-ce que l'âme? C'est une question qui paraît un peu simplette, mais qui mérite d'être posée, je crois, en particulier en ce qui concerne les différentes étapes ou les grands textes importants de la Kabbalah, dans la mesure où ça permet de voir toute la distance que les kabbalistes ont pris par rapport au discours théologique classique. Je veux dire par là que l'âme est généralement opposée au corps. L'âme étant ce qui monte au ciel, le corps ben, ce qui reste sur terre, parfois même dans la terre, qui est voué à la destruction, tandis que l'âme est destinée à une vie éternelle, ou bien d'ailleurs à l'enfer, selon les cas. Alors, ce qui est peut-être assez, je ne dirais pas choquant, mais étonnant pour un lecteur qui n'est pas du tout habitué au texte de la Kabbale sur cette question. Quand on ouvre ces écrits-là, eh bien, on trouve que les kabbalistes, que ce soit le Zohar ou les kabbalistes postérieurs, et sans parler des textes même antérieurs au Zohar comme le Bahir, ne parlent pas de l'âme simplement comme étant une espèce de double individuel du corps, ou de prolongation, de prolongement du corps, prolongement individuel, une espèce de conscience qui se concrétise dans une essence spirituelle et qui demeure, mais que l'âme entre tout de suite, très vite, dans un jeu de relations qu'elle développe, non seulement avec le corps individuel, mais avec toutes les autres âmes. Pour les kabbalistes, et en ceci ils prennent au sérieux d'anciens adages talmudiques, le nombre d'âmes est limité. Quand je dis âme, les kabbalistes entendent évidemment les âmes d'Israël. Les neshamot d'Israël sont au nombre de 600 000. Et toutes ne sont que des éléments, des parcelles d'une même âme, qui constituait l'âme du premier homme, l'âme d'Adam. Et l'ensemble de ces âmes, qui s'unifient dans l'âme d'Adam, et les kabbalistes sont des obsédés de l'unification, plus de l'unification que de l'unité d'abord, d'ailleurs. Ce n'est pas la notion d'unité qui intéresse tellement les kabbalistes, mais celle d'union, d'unification, de fusion de ce qui est détaché ou séparé. Ces âmes constituent également ce que les kabbalistes appellent parfois le corps de la Shekhina. Autrement dit, l'aspect manifesté de la présence divine. Enfin, c'est une traduction qui doit être également revue. Shekhina ne signifie pas simplement la présence, au sens le fait d'être là, d'autant plus d'ailleurs que les kabbalistes l'entendent souvent comme pâtissant de l'exil, donc étant absente, mais la zone, l'interface, la zone intermédiaire entre le monde humain et le monde divin. La Shekhina étant ce qui de Dieu est déjà humain et ce qui de l'humain est encore divin. Et ce sont les âmes des hommes, l'ensemble de leurs âmes, des hommes, des Israélites, je précise s'il était besoin, qui forment par leur unité, bon, telle qu'elle est appelée à se reconstituer par l'unification à la fin des temps, ou telle qu'elle était à l'origine, avant l'éparpillement de ces étincelles, de ces fragments, après la faute du premier homme, a constitué le corps de la Shekhina, ou la Shekhina elle-même, dans son aspect corporel, c'est-à-dire son aspect manifesté. L'âme est donc, et les kabbalistes vont employer une expression plus tard qui va avoir une grande fortune dans la littérature chassidique postérieure, une parcelle de la divinité. Chelek Elohim Mahal, selon un énoncé de Rabbi Moïse Cordovero. L'âme est un chelek, une partie de la divinité d'en haut. Et en tant que telle, étant si précieuse, appartenant au monde divin, le fait qu'elle connaît une aventure terrestre est en quelque sorte une anomalie, a priori, qu'il faut expliquer. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Pourquoi une partie de l'être divin, l'âme, l'âme de l'homme avec un grand H, les âmes des Israélites dans leur ensemble, pourquoi a-t-elle eu besoin, et en quoi a-t-elle eu besoin de se donner une histoire terrestre? Bon, c'est une question que les kabbalistes n'ont pas évitée. Si l'on se tourne vers les écrits de Moïse de Léon, par exemple, auteur présumé du Zohar, il nous dit que l'âme est en prison dans le corps. Il reprend cette métaphore platonicienne et il considère le corps comme une sorte de le corps terrestre, là, le corps de l'homme, le corps individuel, comme une prison pour l'âme. Beta Sohar. Qui dit prison dit voilà qu'elle subit une privation de liberté, qu'elle n'est pas dans son lieu naturel, qu'elle est exilée de sa terre d'origine, qui est une terre céleste, une terre de bonheur et de félicité. Or la voilà engluée dans des affaires bassement matériel, aux prises avec le pur et l'impur, entre l'interdit et le permis, devant subir ce que subit le corps, puisque l'âme n'est pas seulement la spectatrice, neutre, impassible de ce qui survient dans l'existence d'un homme, mais elle est aussi la réceptrice, sensible à ce qui lui arrive. Mais l'âme n'est pas seulement la neshama, n'est pas seulement à l'intérieur du corps. Elle est même rarement à l'intérieur du corps. Elle n'est pas une sorte de puissance qui anime le corps de l'intérieur, une sorte de moteur, comme dans l'aristotélisme. Tu le mets en mouvement. Elle se situe toujours au-dessus, au-delà du corps. Elle est liée à lui, mais elle n'est pas sur le même plan que lui. Pourtant, et le Zohar insiste là-dessus, l'âme elle-même n'est pas nue. Ils veulent dire par là qu'elle n'est pas indépendante du corps. Dans la mesure où elle a connu une vie corporelle, eh bien, elle en a reçu quelque chose. Et ce qu'elle reçoit de cette vie corporelle, c'est ce que le Zohar appelle un habit. L'âme est vêtue. Elle a un habit, et cet habit, qui est identifié souvent au tselem, à la forme selon laquelle Dieu avait créé l'homme, selon le verset de la Genèse, 26-27, ce tselem, cet habit de l'âme, cette forme de l'âme, eh bien, est conforme, est adaptée à la forme du corps. Elle ressemble à la ressemblance que l'homme a. Et donc, que le corps soit vivant ou qu'il ne le soit plus, l'âme conserve une empreinte du corps, qui est cet habit. Et cet habit, c'est à la fois l'empreinte formelle, l'empreinte plastique qui permet aux âmes de se différencier les unes des autres, de se reconnaître les unes les autres comme étant l'âme d'un tel ou l'âme d'une telle, mais elle est également forgée par les actions de l'homme, bonnes ou mauvaises. Les actions, les ma'asim tovim, les mitzvot, les commandements qu'on a accomplis, sont comme les fils que la vie, que l'existence de l'homme a tissé, et pour former cet habit, ce tselem, ce corps de l'âme, ce corps éthéré ou éthérique, ce corps céleste de l'âme. Puisque selon le Zohar, quand l'homme meurt, l'âme d'abord est tout éblouie. Elle ne peut pas supporter la lumière céleste, la lumière d'en haut. Elle subit comme une espèce de décalage par rapport à l'obscurité dans laquelle elle était plongée. Et donc ses yeux, enfin, elle ne peut pas percevoir ce rayonnement qui l'éblouit, qui la brûle. Elle doit donc, pendant un certain temps, se déployer, évoluer dans une espèce de zone intermédiaire, où elle va peu à peu s'habituer à la lumière d'en haut. Et dans cette zone intermédiaire, qui est appelée le jardin d'Éden, l'âme est vêtue de ce corps éthéré, de ce tselem, qui a la forme du corps. Alors bien sûr, il peut survenir des tas de choses. L'âme peut être appelée à se réincarner, entre guillemets, c'est-à-dire à connaître une autre existence, une nouvelle existence. Et à ce moment-là, il y a un problème avec ce tselem, puisqu'elle aura plusieurs tselem en quelque sorte. Donc cela donne lieu à des développements importants. Il y a un livre, par exemple, qui a été écrit par Rabbi Obadia de Bartinora, pardon, Rabbi Yosef de Bartinora, qui est consacré entièrement à l'analyse de l'habit de l'âme dans le Zohar, qui est une sorte d'anthologie commentée, qui travaille sur la signification, la fonction, etc., de cet habit. Et la question se pose aussi, évidemment, en ce qui concerne la résurrection des morts. Si un corps s'incarne plusieurs fois, une âme s'incarne, se réincarne plusieurs fois, eh bien, quelle est la forme que le corps aura, que cette âme ressuscitant aura, quand elle ressuscitera, justement. À la fin des temps, lors de la résurrection, quel est le corps qui ressuscitera? Voilà des questions qui sont posées dans le Zohar, auxquelles le Zohar donne des réponses, qui sont développées, discutées par les kabbalistes postérieurs. Mais ce qui est quand même frappant, avant d'entrer dans les détails, c'est de remarquer les choses suivantes. D'abord que il y a véritablement un essai, une tentative par les kabbalistes de régler le sort de l'âme. Je veux dire par là, de déterminer les règles précises qui la concernent. Et on peut voir que les kabbalistes en ont traité de façon détaillée, aussi détaillée que les talmudistes avant eux avaient traité des questions du corps. Autrement dit, l'âme jouit de la même réflexion approfondie, son sort, ses relations avec les autres âmes, etc., que tout ce qui concernait la vie des corps, la vie humaine, l'existence terrestre, avait joui dans le discours de la halakha et les talmudistes. Parce qu'il y a beaucoup de questions, n'est-ce pas, qui se posent encore Le sexe de l'âme, par exemple. Qu'est-ce qui détermine, à travers quoi se détermine le sexe de l'âme? Bien entendu que les kabbalistes distinguent les âmes masculines et les âmes féminines. La distinction sexuelle ne vaut pas seulement pour les corps terrestres. Il y a le statut de l'âme. Alors, qu'arrive-t-il aux âmes masculines et féminines? Je veux dire, celles qui se sont connues, celles qui étaient mariées. Est-ce qu'elles se séparent après la vie terrestre ou est-ce qu'elles se retrouvent? Là-dessus, le Zohar est tout à fait clair. Les âmes se retrouvent entre elles dans le jardin d'Éden et même tous les soirs de Shabbat, elles s'unissent à nouveau. C'est les nouvelles épousailles des âmes dans le jardin d'Éden. Donc, elles se reconnaissent, elles gardent une identité, celle qui était la leur, la trace de celle qui était la leur, en tout cas, dans la vie terrestre, à travers cet habit de l'âme. Les âmes vivent d'une vie riche, complexe, elles étudient. Pour les âmes qui étaient, alors selon les niveaux auxquels elles étaient parvenues sur Terre, elles continuent leurs études dans le monde céleste. Parfois, elles descendent ici-bas pour donner des enseignements. Les âmes des grands maîtres, de Rabbi Shimon Ben Yochai par exemple, ou d'autres âmes, peuvent se manifester, se révéler, pour transmettre des enseignements. Certaines âmes deviennent des anges, de même que certaines autres, les méchantes, les âmes des méchants, deviennent des démons. Cela, on le trouve, par exemple, dans le Sefer Tikkuné HaZohar. Ainsi d'ailleurs que dans le Sefer Sha'aréhora, où il y a une sorte d'évolution cosmique des êtres, depuis le rang minéral jusqu'au stade angélique. Et d'ailleurs, ça a été repris beaucoup plus tard par Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, où il décrit en détail cette évolution, cette ascension qui se produit à travers les siècles. Et les âmes finissent par, après avoir connu les différents stades de cette élévation, être devenues des anges, pour les meilleures d'entre elles en tout cas, elles continuent encore à s'élever. Et cela, dit-il, jusqu'à l'infini, jusqu'au Ein Sof. Il y a, dans la pensée de Luzzatto, l'idée que toutes les âmes, donc tous les hommes, tous les êtres humains, au bout du compte, eh bien, finissent par fusionner, par se confondre, par réintégrer le Ein Sof, l'infini. Donc il y a une divinisation totale de l'homme. Il y a aussi la question très difficile et très complexe de l'assemblage des âmes, parce que les âmes ne sont pas situées n'importe comment. Elles se réunissent par famille. En réalité, les relations parentales, familiales, que les âmes avaient entre elles, quand elles avaient un corps, quand leur corps était vivant, elles le retrouvent dans le monde d'en haut. Elles se regroupent par famille. Rabbi Joseph de Hamadan, dans ses écrits au XIIIe siècle, décrit précisément comment les âmes se raccrochent, quand elles montent, aux arbres de leur généalogie terrestre. Elles se rassemblent avec leur père, comme dit le texte biblique d'ailleurs, pour parler d'Abraham et des patriarches, qu'ils s'unissaient, qu'ils allaient rejoindre leurs parents, leurs pères. Ils se réunissaient avec leur peuple ou leurs parents. Et cela veut dire, pour les kabbalistes, qu'elles réintégraient le cran qui était le leur dans cet engrenage, dans cette arborescence des âmes, où elles sont regroupées par famille avec les descendants, les collatéraux, toutes les branches. L'âme a une véritable carte d'identité pour les kabbalistes. Elles ont des rapports les unes avec les autres. Rabbi Moshe Cordovero, par exemple, mais c'est repris aussi chez Luzzatto et d'autres kabbalistes, peut-être de façon moins précise, avaient développé cette idée. Les âmes sont aussi interdépendantes, quelles que soient les familles auxquelles elles se rattachent. les 600 000 âmes ont des liens de solidarité entre elles. Ce qui fait que la balance va pencher selon la majorité. S'il y a une majorité d'âmes bonnes, eh bien, elles s'échangent entre elles, en quelque sorte, le positif et le négatif. C'est le positif qui l'emporte, et le monde en bénéficie. C'est ce qu'on appelle une forme de théurgie des âmes. Il y a un réseau des âmes, avec une communication, une interaction. Et d'ailleurs, dans la Kabbale laurianique, tout cela fait l'objet de longs développements, souvent assez complexes, où les affinités entre les êtres sont expliquées par l'origine de leur âme. Affinité d'ailleurs qui demeure et qui perdure à travers le temps, par-delà l'existence terrestre. Pour les kabbalistes, l'existence terrestre n'est qu'une forme transitoire d'existence, parmi d'autres formes. Le but étant de bénéficier, d'acquérir tout ce qui peut être acquis sur Terre, afin de, comme un bagage, comme un viatique, de le transporter au-delà. On pourrait, je crois, de façon tout à fait légitime, construire ce que l'on pourrait appeler, peut-être en osant un peu, en n'ayant pas peur des mots, une sociologie des âmes, la société des âmes, qui serait liée avec la société des existants terrestres incorporés, mais qui serait différent, qui dédoublerait la société terrestre. La société juive, en quelque sorte, pour les kabbalistes, la société d'Israël, la communauté d'Israël, bénéficie d'une double sociologie, d'une sociologie des échanges ordinaire, souvent économique, et puis une sociologie des âmes, qui n'est pas économique, qui échappe complètement à l'échange économique. On peut dire que la seule différence, si l'on regarde les choses à peu près, entre la vie des hommes terrestres et la vie des âmes, ce n'est pas la sexualité, puisqu'il y a une forme de sexualité des âmes, ce n'est pas le fait de manger, de se nourrir, puisque les âmes aussi se nourrissent. Bien entendu, ils se nourrissent de la lumière, de l'éclat de la lumière divine, Ziva Shrina. Les âmes aussi peuvent commettre des bonnes actions, bien qu'elles soient pas vraiment libres comme les êtres terrestres sont libres, elles n'ont pas vraiment un libre arbitre total. Les âmes des justes peuvent intervenir pour le bien des hommes. D'ailleurs, c'est le cas aussi dans l'autre sens. Les hommes peuvent aussi intervenir, intercéder pour le bien des âmes. Il y a cette idée que, par exemple, les fils peuvent intercéder pour permettre à l'âme de leur père décédé de s'élever, de sortir des limbes, de sortir de la géhenne, et pour s'élever, obtenir un haut grade dans le monde céleste. Les bonnes actions, et l'étude, surtout l'étude, quand un fils devient un maître, eh bien, il permet à l'âme de son père, qui pouvait être un homme ordinaire, et même avoir un méchant, d'accéder à un rang supérieur. À son âme, d'y accéder. Il y a aussi l'apport que l'action des hommes peut apporter aux âmes des justes. Par leurs bonnes actions, les hommes peuvent influencer les âmes des justes pour qu'à leur tour, ils influencent dans le bon sens la marche du monde. Donc je parlais de cette société des âmes qui se différenciait peut-être sur un seul point de la société des humains terrestres, c'était que il n'y avait pas d'économie. Au sens, il n'y avait pas d'échange financier. Les âmes n'ont pas à travailler. N'ont pas à gagner leur vie, si j'ose dire. C'est un petit peu le statut d'Adam et Ève avant la faute, avant leur expulsion du jardin. L'homme dans le jardin d'Éden avait à sa disposition tous les arbres du jardin dont il pouvait manger. Certes, il devait le travailler et le cultiver. Le texte dit que ce travail et cette culture, c'était en fait l'avodata kodesh, c'est-à-dire le culte saint, le culte rendu à Dieu. Mais que c'est après, seulement après la faute, après l'expulsion, qu'il a dû travailler à la sueur de son front. Et voilà en quoi l'homme, par son âme, se différencie de l'homme terrestre. Je crois que c'est la notion de travail et de labeur, de travail au sens de labeur, de peine, avec tout ce qu'il implique aussi de servitude, de domination, d'échange économique, qui est la marque principale de la différence entre la société des âmes et la société des humains terrestres. Il n'y en a fait pas de relation de maître à esclave ou de dominateur à dominé entre les âmes. Elles sont égales. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas hiérarchiquement structurées. Il y a des âmes de rang différent. Chaque âme a un rang particulier, a une position spécifique dans le jardin d'Éden. Il y en a qui ont des magnifiques demeures, il y en a qui ont des demeures beaucoup plus ordinaires, des sortes de HLM du jardin d'Éden céleste. Mais elles ne le sont pas à cause d'une injustice ou à cause d'un mauvais sort qui était le leur, mais en fonction uniquement du mérite qu'elles ont acquis sur Terre. Autrement dit, il y a une pure justice, qui est la loi de la société des âmes. Il n'y a pas d'arbitraire. C'est un petit peu l'utopie d'une société sans arbitraire. Il n'y a pas de misérables et de riches. Il n'y a pas de riches et de pauvres. C'est selon les mérites de chacun que les âmes sont récompensées. Alors, quelle est la forme de relation que les âmes entretiennent entre elles, alors qu'il n'y a pas d'arbitraire, il n'y a pas d'injustice? Eh bien, c'est des relations parfaitement harmonieuses, des relations strictement réglées. C'est un petit peu une société idéale qu'elle constitue. Les âmes ne peuvent pas mentir. Elles ne peuvent pas tromper. Elles ne peuvent pas trahir. Elles sont pleinement ce qu'elles sont. Parfaitement claires avec elles-mêmes. Elles n'ont pas d'inconscient. On pourrait dire que les âmes sont des hommes sans inconscient. C'est-à-dire que leur inconscient et leur conscient sont identiques. Il n'y a pas de surmoi. Elles ne subissent pas un poids de contrainte. Ce qui fait qu'elles se rejoignent, qu'une âme étudie auprès d'une autre âme, c'est parce que elle occupe une place qui fait que c'est cette âme-là qui est celle qui va pouvoir lui transmettre tel et tel enseignement. C'est des relations strictement déterministes, avec une part infime laissée au libre arbitre. Je dis infime parce que je ne veux pas dire tout à fait nul, dans la mesure où la petite part qui demeure est en quelque sorte cette part d'humanité qui fait que l'âme se différencie encore à ce stade de la divinité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore fusionné dans l'infini. Bien sûr, à une étape ultérieure, quand l'âme est parvenue à s'élever, c'est-à-dire à acquérir tout ce qui lui manquait pour se parfaire, quand elle s'élève du jardin d'Éden terrestre au jardin d'Éden céleste, et de là vers les sphères encore plus élevées, vers la hauteur, vers l'infini, alors à ce moment-là, certes, elle perd toute identité. On pourrait même dire, en poussant peut-être un peu le trait, que tout ce que nous décrivent les kabbalistes à travers leurs textes, c'est comment, grâce au travail de l'étude, de l'enseignement, et de l'accomplissement des bonnes actions, comment à travers toutes ces étapes de perfection progressive, l'homme va perdre peu à peu son identité. Peu à peu, c'est-à-dire, il lui en restera quelque chose dans le jardin terrestre, c'est l'habit de l'âme. Ensuite, elle va perdre cet habit, elle va se détacher de cet habit pour s'élever plus haut encore, dans le jardin d'Éden terrestre, céleste. Et puis, ensuite, elle va s'élever toujours plus haut, jusqu'à se fondre et se confondre avec l'infini. Et à ce moment-là, on ne pourra plus dire « voici l'homme, voici Dieu », puisque l'âme se sera complètement fondue dans l'être divin. Autrement dit, le rêve, l'idéal, c'est peut-être cet idéal derrière lequel se cache cette notion de l'âme, c'est de se libérer de la contrainte du fait d'avoir une identité particulière. Mais pas de s'en libérer de façon violente, immédiate, totale. De s'en libérer comme un travail de détachement. Un travail un apprentissage de la distance par rapport à la possession d'un nom, la possession d'une forme particulière, d'une mémoire particulière, bref, d'une identité spécifique. Maintenant, il faudrait voir aussi quel est le rapport entre les âmes d'Israël et les âmes des non-juifs. C'est une question importante, délicate et complexe, parce qu'on rejoint la notion, alors dans le Zohar, du pur et de l'impur, dans d'autres textes, il y a aussi plusieurs formes de non-juifs, plusieurs catégories. Les non-juifs « normaux », entre guillemets, ce qu'on appelle les goïms, les peuples, et puis les non-juifs qu'on appelle les Eved Kenaanim, les esclaves cananéens. Enfin, il y a tout un vaste ensemble complexe, très structuré, qu'il faut voir en détail.